Psaume 2, les versets 1 à 6. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Amen. Ce psaume nous parle de toutes les données eschatologiques, de certaines données eschatologiques, c'est-à-dire de certains événements qui régiront ce que nous, dans notre langage, on appelle la fin des temps. Et ce qui m'a émerveillé dans ce psaume, lorsque je l'ai relu, c'est le contraste qu'il peut y avoir entre la terre et le ciel. D'un côté, sur la terre, on voit les grands de ce monde qui s'agitent, on voit les rois, les nations qui s'agitent de toutes parts, on voit les peuples qui ont des vaines pensées, on voit les rois de la terre qui se dressent et les princes qui se liguent ensemble. Et de l'autre côté, dans le ciel, on voit Dieu qui est calme, qui est serein, qui rit et qui se moque d'eux. Quel contraste! Et finalement, on peut penser, lorsque on regarde les actualités, lorsque on regarde ce qui se passe sur notre terre, que on est dans la réalité. Les nations s'agitent pour résoudre une crise économique qui, finalement, une fois résolue, s'ils y arrivent, ne donnera suite qu'à une autre. Les nations s'agitent lorsque un volcan explose en Islande et qu'un nuage empêche les avions d'atterrir. Les nations s'agitent lorsque on se retrouve dans des situations précaires au niveau social. Les hommes politiques vont de droite, vont de gauche, courent d'un lieu à un autre pour rassurer l'opinion publique. On forme des conglomérats, on forme des regroupements de nations, on forme des pôles économiques, ce qui n'est pas mauvais en soi, finalement, pour des résultats qui ne sont pas toujours probants. Et puis, là-haut, dans le ciel, il y a Dieu. Il y a un Dieu qui est sur son trône. Il y a un Dieu qui ne bouge pas. Ou plutôt, ce qui ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Mais du moins, dont l'attitude n'est pas changeante. Il ne va pas d'un côté, il ne va pas de l'autre. Mais il est en sécurité. Et devant toute la haine que le monde peut lui vouer, il rit. Il rit. Ce n'est pas un rire de dédain. Ce n'est pas un rire qui dénigre. Mais c'est un rire qui nous parle de la sécurité, de la tranquillité. Pourquoi est-ce que Dieu est-il aussi serein à votre avis? Quelle est la cause de cette tranquillité? C'est parce que Dieu sait. C'est parce que Dieu sait. Les hommes en bas ne savent qu'une seule chose, c'est qu'ils ne savent pas. Mais le roi qui est assis sur son trône, il est serein parce qu'il sait. Dieu sait. Et Dieu sait quoi? Dieu sait comment les choses vont évoluer. Dieu sait comment le monde va aller. Dieu sait dans quelle direction il va prendre, parce que il a écrit un scénario. Et ce scénario, j'aimerais que nous puissions le voir ensemble. Nous ne connaissons pas exactement comment les choses vont s'acheminer. On parle souvent d'apocalypse, on parle souvent de fin des temps. Il paraît même que la Terre sera détruite en 2012. Eh bien, bibliquement parlant, c'est faux. La Terre ne veut pas être détruite en 2012, étant donné qu'avant, on le verra peut-être dimanche prochain, hein, mais il faut qu'il y ait le millénium. Et donc, la Terre ne pourra pas être détruite en 2012. C'est strictement impossible. Dieu sait. Et si Dieu sait comment les choses vont évoluer dans l'avenir, pour la Terre et pour le monde, il le sait également pour notre vie. Dieu sait. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît tes soucis. Dieu connaît tes tracas. Dieu connaît ce qui te blesse. Dieu connaît ce qui te fait mal. Dieu connaît tes doutes, tes peurs, ton agitation de droite, de gauche. J'irai à droite, j'irai à gauche, je ferai ci, je ferai cela. Mais en définitive, ne sommes-nous pas un petit peu comme les grands de ce monde qui nous agitons? Dieu sait, il est sur son trône. Alors, ce que j'aimerais vous voir aujourd'hui et le dimanche qui suivra, c'est comment les choses vont se dérouler jusqu'à ce que notre terre soit détruite. C'est voir un petit peu comment la Bible décrit la fin des temps. Comment les choses vont s'agencer? Comment elles vont s'organiser? Même si nous ne savons pas tout, lorsque nous décryptons les écrits, les Écritures saintes, Dieu nous donne des pistes afin que nous ne soyons pas surpris de ce qui se passe autour de nous et afin que nous puissions décoder l'actualité, non pas avec un regard pessimiste, mais avec un regard objectif, en sachant que de toute manière, notre Dieu est au courant. Et aujourd'hui, je vais voir la partie la plus agréable, celle qui nous concerne, celle finalement qui concerne les enfants de Dieu lorsqu'ils seront enlevés. C'est ce qui va se passer sur le ciel, dans le ciel, pardon. Et dimanche prochain, nous verrons une partie un petit peu moins rigolote, mais ô combien intéressante. C'est ce qui va se passer lorsque nous, eh bien, nous serons dans le ciel, ce qui va se passer sur la terre jusqu'à la destruction de notre planète. Première chose, le déclencheur de l'action de Dieu dans les derniers temps, ce sera le retour du Seigneur Jésus. Alors, quelles en sont les modalités? La première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 51 à 52, disent « Voici, je vous dis un mystère. » On aime bien les mystères, on aime bien les secrets. « Nous ne mourrons pas tous. » Ah bon? « Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. » Là, Paul ne nous parle pas de science-fiction. Paul ne nous décrit pas une scène d'un mauvais film, mais il nous parle de la réalité. Il se passera quelque chose d'extraordinaire qui surpasse. Joanne, tu peux m'enlever de la réverb ou je ne sais pas quoi. Merci. Paul ne nous parle pas d'un film de science-fiction, mais il nous décrit exactement ce qui se passera. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fabuleux, quelque chose de divin. Tout d'un coup, au son de la trompette d'un archange, eh bien, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, nous serons emmenés avec lui. C'est-à-dire que les hommes et les femmes qui seront dans leur tombe, de la même manière que lors de la mort de Jésus, des morts sont ressuscités, des tombes sont ouvertes, eh bien, il en sera de même. Et ces corps qui sont morts corruptibles, ces corps qui sont morts avec, qui sont morts avec la maladie, qui sont morts avec l'âge, qui sont morts peut-être avec des pensées mauvaises, etc., avec les corps que nous connaissons, eh bien, ils ressusciteront, sous quelle forme, nous ne le savons pas, mais ils ressusciteront glorieux. Et là, on sera emmené à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Ce sera quelque chose d'extraordinaire de vivre cela. Ce sera quelque chose de fabuleux de vivre ainsi. Et une chose est certaine, c'est que ce retour aura lieu. Ce n'est pas un conte de bonne femme. Ce n'est pas un conte que l'on raconte comme ça pour faire peur. Mais c'est une réalité. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 2, dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, où je suis, vous y soyez aussi. » La volonté de Jésus, c'est d'être avec nous. La volonté de Jésus, ce n'est pas d'être séparé de nous. Ce n'est pas que nous soyons séparés de lui. Mais la volonté de Jésus, c'est que mon frère, ma sœur, mon ami, tu sois avec lui. C'est que tu sois avec lui. Ce qui veut dire que nous ne serons pas tous avec lui. Ce qui veut dire que nous ne serons pas tous avec lui. Mais simplement ceux qui auront cru. Simplement ceux qui auront préparé ce retour. Par une intimité, par une communion, par une vie de sainteté, pourront prétendre à habiter la maison que le Seigneur est en train de bâtir pour eux dans le ciel. Il y a une maison qui est pour vous dans le ciel. C'est marqué Denise. Denise V, parce qu'il y en aura plusieurs dans le ciel. Elle est marquée Samuel S. Parce que déjà, dans l'église, on a du mal à s'y reconnaître parfois. On a tous une maison qui nous est préparée. Jésus est monté nous préparer une place. Et aux disciples qui l'ont vu être enlevé et qui étaient quelque peu désemparés, mes anges diront que pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vue allant au ciel. Ce retour, personne ne peut le prévoir. Il viendra comme un voleur, il viendra en un clin d'œil. Pas même le Fils connaît, pas même les anges connaissent l'heure, le jour. Personne. Et ce qu'on sait, c'est qu'il est certain. Ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Peu importe. Vous pourrez être au volant de votre voiture, devant votre fer à repasser, dans votre lit, devant votre écran d'ordinateur, au pied de votre lit à prier, en train de discuter avec votre femme. Et là, tout d'un coup, vous serez pris avec le Seigneur Jésus. Ça en sera fini des tracas. Ça en sera fini des soucis. Ça en sera fini des larmes. Ça en sera fini des souffrances. Ça en sera fini de la maladie. Ça en sera fini des analyses de sang. Ça en sera fini des courbatures après avoir fait du sport. Terminé! Des claquages. Terminé! Là, on sera avec le Seigneur. Mais les évangiles nous parlent d'une scène ô combien douloureuse de 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre laissé. De 2 personnes qui tourneront la meule, une sera prise, l'autre laissée. Parce que le choix, il ne se fait pas là-haut, mais le choix, il se fait ici. Et j'ai envie de dire, alors fermez les oreilles si vous êtes de mauvaise humeur. De 2 personnes fréquentant l'église du Pontreau, une pourra être prise et l'autre pourra être laissée. Non pas parce que Jésus aura tiré à pile ou face. Non pas parce que votre nom n'aura pas été pris dans une urne. Mais parce que l'une vivra d'apparence, tandis que l'autre vivra une réelle vie de foi. Vivons, mes frères et sœurs, chaque jour comme si le Seigneur devait revenir. Vivons, mes frères et sœurs, chaque instant comme si le Seigneur devait revenir. Chaque moment de ma vie, chaque moment de notre vie, comme si le Seigneur devait revenir. Jésus, en parlant de cet événement, prenant l'exemple des hommes du temps de Noé. Le temps de Noé, il ne pleuvait pas. Et Dieu apparaît un jour à Noé, il dit, construis une arche. Et puis tu vas y mettre un couple de chaque animal, etc., de manière à ce qu'il puisse se reproduire, parce que je vais faire venir un déluge. Alors, Noé va appeler ses fils, et puis ils vont se mettre à bâtir l'arche selon les commandements et selon les dimensions que Dieu va lui donner. Alors les hommes de leur génération vont dire, mais vous êtes un peu toc-toc, hein? C'est pas bien. Je connais un excellent psychologue. Je connais quelqu'un qui pourra vous donner plein de cachets, des petites boules roses, des petites boules vertes, qui vont vous faire beaucoup de bien. Un déluge, mais vous n'allez pas bien. Et puis les moqueries ont continué. Pendant des années, Noé va bâtir son arche. Les hommes de la génération de Noé n'ont pas cru au retour du Seigneur Jésus. Au déluge, pardon. C'était quelque chose qui était improbable. C'était quelque chose qui n'entrait pas dans leur conception, qui n'entrait pas dans ce qui était possible humainement parlant. Ils étaient trop occupés à manger, ils étaient trop occupés à boire. Ça ne les intéressait pas. Puis un jour, l'arche a été finie. Les animaux sont montés, Noé et sa famille sont montés, la porte s'est refermée et la pluie est venue. Oh! Et puis les eaux sont montées. Et là, l'humanité a quasiment disparu. C'est improbable, hein, ce que le fait que le Fils de Dieu vienne chercher, des hommes et des femmes, comme ça, au hasard, d'une manière plus ou moins aléatoire, nous semblerait-il. C'est quelque chose d'un petit peu, qui relève un petit peu la science-fiction. De la même manière que la pluie tombe du temps de Noé. Pourtant, c'est une réalité. Serons-nous de ceux et de celles qui seront dans l'arche? Vivons-nous chacune de nos journées, chaque instant de notre vie, en nous disant, Seigneur, est-ce que je suis dans l'arche de ton salut? Est-ce que je suis dans l'arche de ta présence? Est-ce que je suis dans l'arche de ton œuvre? Parce que si jamais demain tu reviens, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Vivons chaque jour de notre vie avec, dans le coin de notre cœur, cette pensée qu'effectivement, le Seigneur Jésus est susceptible de revenir, est susceptible de venir chercher ceux de ses enfants qui l'aiment. Alors, cette pensée de l'éternité, cette pensée du retour de Jésus est une source de bénédiction pour les chrétiens, une source de bénédiction extraordinaire, puisque c'est un sujet de consolation pour l'Église qui est parfois persécutée ou pour nos vies qui sont chamboulées. Paul à l'Église persécutée de Thessalonique dira au chapitre 4 et au verset 18 « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous par ces paroles. » Moi, ça me fait du bien de savoir qu'un jour le Seigneur Jésus va revenir. Ça me console. Et lorsque votre frère, votre sœur, eh bien, est dans la souffrance, prenez-le par l'épaule et dites « Écoute, un jour ou l'autre, ça sera terminé tout ça. Et le Seigneur est capable de revenir. Hein? Tu es de ceux, de celles, eh bien, qui seront prises par le Seigneur. Que le nom, hein, que ton nom soit béni, mon Dieu. » Deuxième chose, c'est un sujet de sanctification. L'apôtre Jean, au chapitre 3, au verset 2, écrira « Voici ce que nous savons. Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est. Alors nous lui ressemblerons. Tous ceux qui espèrent cela du Christ se rendent purs comme lui est pur. » Seigneur, tu reviens bientôt, donc je ne vis pas comme tout le monde. Je vis selon ta parole. Parce que si jamais tu reviens demain et que demain je fais n'importe quoi, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura qu'un seul enlèvement. Est-ce que j'aurai une seconde chance? Rendez-vous dimanche prochain pour le savoir. Pour l'instant, on est dans le ciel. Est-ce que j'aurai une seconde chance? Peut-être. Oui, il y en aura une, mais elle sera loin d'être facile. Loin d'être facile. Il ne faut pas rater le départ. Hein. Et pour bien être à l'heure à la gare, il faut prendre sa douche tôt. Parce que trop traîner dans la salle de bain, ça pourrait vous mettre en retard. Et dans le train, on admettra que les hommes et les femmes qui auront le cœur propre. Que les hommes et les femmes qui auront le cœur propre. Non pas par leurs actions, non pas par leurs actes, mais parce qu'ils auront plongé leur vie dans le sang du Seigneur Jésus. Ils auront donné leur vie au Seigneur Jésus. Troisième chose, c'est une source de motivation. Second épître de Pierre au chapitre 3 au verset 12. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. » Vous attendez et vous hâtez. C'est-à-dire que ce n'est pas une attente en disant « Seigneur, tu reviens bientôt. » Seigneur, merci parce que tu reviens bientôt. Non, c'est une attente qui est active et qui a pour but de hâter le jour du retour du Seigneur Jésus au travers du témoignage, au travers de l'intercession, au travers de notre activité spirituelle et non pas de notre activisme. Mais on a une vocation à dire au Seigneur, allez, reviens bientôt. Comme dit le livre de l'Apocalypse, l'Esprit et l'Église et l'Épouse disent, viens, viens, viens Seigneur Jésus. Alors, le retour du Seigneur n'est pas la fin de ce qui se passera dans le ciel, c'est que le commencement. On est enlevé, grand mystère, et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour nous les chrétiens? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vivre un grand moment, on va vivre ce que la Bible appelle le tribunal de Christ, ou alors le tribunal des récompenses. Second épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10, car il nous faut tous, hein, donc les chrétiens, comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Donc, le tribunal de Christ, c'est premièrement, c'est pour ceux et celles qui sont sauvés. Les autres, ils sont encore sur la terre. Ils sont encore sur la terre. Là, je parle aux chrétiens, donc je vous parle à tous. Hein? Je parle à ceux et à celles qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et vous l'avez tous fait. Vous ne commettriez pas cette folie de ne pas donner votre vie au Seigneur Jésus. Rassurez-moi. Il n'y en a pas, hein. Vous me rassurez. Vous me rassurez. J'ai eu un doute tout d'un coup. Et donc, on se retrouvera tous au tribunal de Christ, là-haut. Et deuxièmement, c'est quoi le tribunal de Christ ? C'est un lieu de bilan. Un lieu de bilan où 4 points seront évoqués. 4 questions nous seront posées. Qu'aurons-nous fait de notre salut ? L'apôtre Paul explique que l'on construit sur le fondement du salut, le fondement de la foi en Jésus-Christ. Mais le salut n'est pas une fin. Je suis sauvé pour servir. Je suis sauvé pour être un outil entre les mains du Seigneur Jésus. Je suis sauvé pour produire des œuvres qui sont la conséquence de ma foi. Je suis sauvé pour continuer à avancer. Je suis sauvé pour permettre au Saint-Esprit de ressembler à Jésus-Christ au travers, comme l'a dit Samuel, au travers de mes pensées, au travers de mes paroles, au travers de mes actes, au travers de mes gestes, peu importe. Mais je suis sauvé pour évoluer. Et je suis sauvé pour faire évoluer les autres. Qu'aurais-je fait de mon salut ? Que faisons-nous de notre salut ? Deuxième question qui nous sera posée, qu'aurons-nous fait de nos talents ? Dieu a investi en nous, vous savez ? Dieu a investi en Anaël, même si elle n'est pas bien grande, je la vois près du radiateur là-bas. Dieu a investi en Myriam. Dieu a investi en moi. Quelle folie. Qu'aurons-nous fait de nos talents ? Et là, je ne parle pas simplement des talents que nous voulons utiliser, mais je parle des talents que Dieu nous aura donnés. J'ai l'habitude, pour imager cette pensée, de dire que nos vies, que dans le ciel, Dieu a une vie type pour nous. Et puis, lorsqu'on passera au tribunal de Christ, eh bien, il superposera la vie qu'il avait tracée pour nous, et puis il mettra en parallèle notre vie. Et ça passera au feu, tout ça. Et il n'y aura que ce qui sera en adéquation entre ce que Jésus avait rêvé pour nous et ce que nous avons accompli qui survivra. Tout le reste sera balayé. Tout le reste sera enlevé. Tout le reste sera retranché. Qu'aurons-nous fait de nos talents ? Qu'aurons-nous fait des projets que Dieu a mis sur notre cœur ? Qu'aurons-nous fait des œuvres bonnes que Jésus a préparées pour nous ? Tout cela, eh bien, passera un jour en jugement. Troisième question, aurons-nous accompli la volonté de Dieu pour nous ? Ça revient quelque peu au même. Quatrièmement, qu'aurons-nous caché ? Ça, c'est intéressant. Matthieu, chapitre 10, verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Dans le ciel, ça sera exactement la même chose. Ce que nous aurons caché à Dieu, c'est-à-dire ce que nous n'aurons pas confessé, ce sera publié. Et le Seigneur, devant tout le monde, devant, on peut l'imaginer comme ça, hein, devant la multitude des rachetés, dira, Olivier, tel dimanche, tu as fait ça. Oh Seigneur, ben oui, je ne te l'avais pas dit. Je ne te l'avais pas confessé. Le film de nos vies les films de nos vies passeront. Et ainsi, on verra ce qu'il en restera. Mais on peut remarquer que dans le texte de Paul, d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit de bien, soit de mal. Dire que Jésus ne tiendra pas compte uniquement de ce que nous aurons fait de mal, mais également de ce que nous aurons fait de bien. On fait des choses bien aussi. Rassurez-moi. On accomplit des choses extraordinaires, et parfois qui ne se voient pas, qui ne se
connaissent, qui ne sont pas connus. On accomplit des choses qui, aux yeux des hommes, sont parfois toutes petites, mais qui, aux yeux de Dieu, sont ô combien importantes.
Jésus, lorsqu'il parlera de certains pharisiens, dira « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de, pour en être vu autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ces hommes, ils donnaient l'aumône avec beaucoup de bruit. Ils faisaient des prières bruyantes. C'est des hommes en vue. Jésus dira à leur sujet, ils ont leur récompense sur la terre, ils ne l'auront pas au ciel. Mais vous savez, on peut faire des tas de choses dans le secret. Et je pense à tous les anonymes du peuple de Dieu, tous ces hommes, toutes ces femmes, dont on ne sait finalement pas grand-chose de ce qu'ils font, et qui pourtant accomplissent des choses extraordinaires, qui seront à un moment ou à un autre, eh bien dans le ciel, honorés par le Maître lui-même. Je sais ce que tu as donné. Je sais ce que tu as fait. Et un jour dans le ciel, eh bien ces choses-là seront publiées. Ce sera tous les actes que nous aurons faits avec amour, tous les sacrifices que nous aurons pu faire au nom de notre Père, toutes ces petites choses qui nous ont coûté, toute notre fidélité, toute notre consécration, qui parfois a pesé sur notre vie, a pesé sur notre couple, a pesé sur notre état de santé, mais que l'on a fait non pas pour nous-mêmes, mais qu'on a fait par amour pour notre Sauveur. Toutes ces choses-là, qui accumulées les unes sur les autres, les unes à côté des autres, passeront au travers du feu et subsisteront. Alors que bien des choses visibles qui auront impressionné les hommes, elles ne passeront pas. Dieu sait également cela. Ça me fait du bien de savoir ça. Pour toutes les fois où on ne m'a pas dit merci. Pour toutes les fois où on a oublié de me féliciter. Pour toutes les fois où je ne l'ai pas voulu. Pour toutes les fois où finalement, je ne me suis même pas rendu compte que je faisais du bien. Pour toutes les fois où j'ai pleuré en faisant quelque chose parce que ça me coûtait. Ça fait du bien. Et à vous. Ce sera un lieu qui ne sera pas simplement un lieu de jugement, mais ce sera également un lieu de récompense. Dieu voit ta fidélité. Dieu voit ta consécration. Dieu voit ce que tu donnes, Dieu voit ce que tu offres, gratuitement, et tout simplement pas pour être vu, mais tout simplement par amour pour lui. Et pour lui, ça a de la valeur. Alors, on est enlevé, on passe devant le tribunal de Christ, ou devant le tribunal des récompenses, et ensuite, oh, Jésus doit avoir un côté bien français, puisqu'il y a ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Un grand festin, un grand repas qui est organisé. Et c'est le lieu où l'Église, qui pour l'instant est la fiancée, deviendra officiellement l'épouse. L'apôtre Paul dira dans sa seconde aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. » Fiançailles, c'est quoi? De nos jours, c'est quelque chose qui est un petit peu galvaudé. C'est un bon resto, des cadeaux, une bague pour mesdames, pour mesdemoiselles, parce que c'est pas encore mesdames, une bague. Et puis, voilà. Et, comme disait quelqu'un que j'aimais beaucoup, les fiançailles sont faites pour être rompues. C'est vrai. Mais du temps de Jésus, ça se passait pas du tout comme ça. Être fiancé à quelqu'un, c'était quasiment être marié avec la personne. La seule chose qui différait du mariage, c'était le fait que l'époux et l'épouse ne vivaient pas ensemble. Donc, c'était quand Paul dit aux Corinthiens « Je vous ai fiancé à un seul époux », c'était pas quelque chose qui était neutre. C'était quelque chose qui avait du poids. Et Joseph, lorsqu'il dit à Marie « Bon, écoute, je vais casser nos fiançailles en silence, en secret », c'était pour éviter qu'elles ne soient lapidées. C'est quelque chose qui avait du poids, qui avait du prix. Ne voyons pas notre fiançaille avec notre Dieu
à la mode moderne. Mais nous avons été fiancés à un seul époux, à une seule personne. C'est notre Dieu. Nous avons fait alliance avec lui. Non pas avec une alliance comme celle que je possède, mais avec une circoncision dans le cœur. Nous avons été scellés là. Il y a une marque de Dieu qui est dans notre vie, qui nous dit, allez, un jour là-haut, eh bien, que j'aime, tu feras partie de ceux que j'aime, et de ceux que j'ai appelés, de ceux que j'ai réservés, de ceux qui m'ont été fidèles. Ce sera un repas fabuleux. Comme je l'ai souligné, on pourra manger ce qu'on voudra, on ne prendra pas de poids, puisque nos corps seront incorruptibles. Ça durera extrêmement longtemps. Ce sera la joie. Ce sera un moment fabuleux. Et puis, il y aura un temps glorieux où nous prendrons avec Jésus à nouveau du vin. On partagera une scène glorieuse, j'en suis certain, avec lui. Ce sera un moment de joie. Où finalement, ce sera l'aboutissement de tout un chemin terrestre, de toute une vie. Et nous passerons l'éternité avec notre Seigneur. Nous vivrons avec lui de manière naturelle, j'allais dire. Dire que la foi chrétienne ne sera plus quelque chose parfois d'un petit peu dur, d'un petit peu rocailleux, mais on sera avec lui, pour toujours, pour l'éternité. Et ce sera un bonheur perpétuel, ce sera la félicité, que le nom du Seigneur soit béni. Alors en conclusion, j'aimerais dire que la description que je vous ai faite n'est pas fantaisiste, elle est ce que la Bible nous décrit. Et j'aimerais vous dire, et vous laisser simplement cette parole sur votre cœur, et elle vient du plus profondément de mon être, du plus profond de mon être. Cela vaut la peine de souffrir un petit peu sur cette terre, pour être heureux dans l'éternité. Cela vaut la peine, parfois, de subir quelques contradictions de la part de Dieu. Cela vaut la peine, parfois, d'arracher, de sacrifier certaines choses pour cette vie sur cette terre, afin d'être heureux dans l'éternité, pour l'éternité. Qu'est-ce que 100 ans comparé à l'éternité? Rien du tout. Cela vaut la peine. De grâce, mes frères et sœurs. De grâce. Ne vendons pas notre héritage. Ne vendons pas notre vigne. Ne vendons pas le cadeau que Jésus nous a fait au travers de sa mort. Ne perdons pas l'éternité qui nous a ouverte. N'hypothéquons pas la maison qui nous a donnée là-haut. Cela vaut la peine. Cela vaut la peine. Parfois, de souffrir un petit peu sur cette terre. Et d'être heureux pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Dimanche prochain, c'est ce qui se passera sur la terre. Et puis, également, comment le ciel et la terre se rejoindront. Puisque, à un moment donné, on reviendra sur cette terre. Mais, en attendant, restons bien le cœur dans le ciel. La tête dans le ciel. Afin que nous puissions vraiment être de ceux, vraiment être de celles qui vivront ces choses glorieuses. Vivons chaque jour comme si le Seigneur devait revenir aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur parce que tu reviens bien.